de monde dehors que dans la salle. Je m'excuse pour ceux qui ont pu entrer dans la salle. Nous essaierons peut-être, lors du prochain mandat, d'imaginer une salle des fêtes le plus grande. Merci Gilles, merci François-Xavier, vos propos à tous deux, chaleureux, qui me touchent beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre présence chaleureuse également, qui fait vraiment du bien ce soir, au moment où nous engageons officiellement maintenant dans ce chemin qui nous mènera jusqu'au 30 mars. J'ai dit bien 30 mars, c'est comme ça qu'il faut voir la trajectoire. Je voudrais vous dire que cette réunion ce soir n'est pas une réunion politique. Je vais essayer de ne pas trop parler de politique, politicien. Vous parlez de ce qui nous réunit, qui nous rassemble, notre ville. Mais je ne peux pas quand même, parce que le quotidien nous interpelle, l'information est là et nous amène à réagir. Il y a une quinzaine de jours, nous accueillions ici, pas nous, mais la ville sur la ville de Tarbes, un éminent homme politique national, M. Mélenchon. Je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il faut bien s'instruire, n'est-ce pas ? Je ne peux pas m'empêcher de rapporter quelques-uns de ses propos qui vont vous éclairer sur ce que, éventuellement, il pourrait nous attendre. Alors d'abord, il a dit, il y a ici un civisme de gauche dans ce département. Il y a un civisme de gauche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Civisme, il n'y en a pas. Moi, le civisme de gauche que je vois aujourd'hui, il est basé sur des valeurs que nous ne pouvons pas partager. Le copinage, le mensonge, l'intolérance, la mauvaise foi. Mais rassurez-vous, ce n'est pas moi qui dis ça. Je vais vous lire ce qu'il dit, M. Mélenchon lui-même, parlant de ses amis de gauche. Nos amis de gauche, fâcheuse habitude de considérer que tout leur est dû. Ils ont une pratique hégémonique, sectaire et violente. Je n'ai même pas besoin de faire campagne, il suffit de citer M. Mélenchon. Ensuite, écoutez bien ça aussi, parce que ça justifie une réflexion profonde. Nos amis de Tarbes vont proposer un programme inspiré de la méthode des radicalités concrètes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et alors il dit, après, il a dû voir que personne ne savait ce qu'il voulait dire, il dit, c'est-à-dire la démonstration locale de ce que nous sommes capables de faire sur le plan national. Il n'est pas ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire. Si vous comprenez quelque chose, pas moi. Ensuite, il parle d'un référendum révocatoire local. Ce qui voudrait dire que quand sur une commune n'est pas satisfait de son maire, eh bien, en cours de mandat, on peut organiser un référendum révocatoire. Quel dommage qu'on ne puisse l'organiser sur d'autres terrains que sur le terrain municipal. Quel dommage! Donc vous le voyez, il y a quelques mois ici, j'ai tenu un propos que certains parmi vous ont entendu. Je ne peux pas m'empêcher de le relater, de redire une nouvelle fois, parce que rien n'a changé depuis. Rien n'a changé. Je disais, la gauche fait la morale aux autres, mais ne s'applique pas à elle-même. La gauche déteste l'argent des autres, pas le sien. On voit aujourd'hui comment ça se passe. La gauche déteste la réussite des autres, pas la sienne. Elle donne des leçons de démocratie et elle abîme sérieusement la République. La gauche n'aime pas les bonnets rouges, elle préfère les bonnets verts. Ce sont ces bonnets verts qui lui donnent au gré des scrutins, majorité ou non. Vous avez pu voir encore qu'au Sénat, le budget de la France n'a pas été adopté, alors qu'il y a une majorité de gauche au Sénat. On a l'impression que nous c'est égal ce qui se passe au Sénat, parce que finalement, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. La gauche n'aime pas ses adversaires, ça c'est connu. Mais elle n'aime pas ses amis non plus, et là je vais vous prouver. Je vais vous lire une lettre, que vraiment ça vaut son pesant d'or, qui a été envoyée le 8 novembre dernier, qui nous a été envoyée le 8 novembre dernier. Elle est adressée au président du syndicat Pyrénia, dont nous faisons partie, et dont nous sommes signataires de la lettre que je vais évoquer. Alors, monsieur le président, vous avez sollicité une audience auprès de monsieur Philippe Martin, ministre de l'écologie, développement durable et de l'énergie, afin d'évoquer avec lui la situation économique des liaisons aériennes Tarbes, Lourdes et Paris-Orly. Philippe Martin, vous savez, c'est notre voisin, président du conseil général du GERS. Donc il nous connaît bien. Il connaît bien la problématique Tarbes, Lourdes, Pyrénées, Orly, puisqu'il y a beaucoup de Gersois qui l'utilisent. Le ministre a pris connaissance de votre lettre du 20 septembre, co-signée par les élus de Haute-Pyrénées, M. Glavany, ancien ministre et député, M. Malvy, ancien ministre, président du conseil régional, Mme Durieux, sénatrice, M. Fortassin, sénateur, Mme Dubié, députée, M. Bellieu, président du conseil général, et M. Trémège, maire de Tarbes et président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, dont il a pris connaissance du courrier avec une grande attention, et il nous en remercie. Cependant, vous demandez un rendez-vous. Les nombreux engagements déjà inscrits à son agenda ne lui permettent pas de vous recevoir, ce qu'il regrette sincèrement. Voilà, j'ai compris. C'est consternant. Si j'avais été le seul signataire de la lettre, je pourrais à la rigueur le comprendre. Mais quel camouflet pour les autres signataires, anciens ministres, députés, sénateurs, de se faire éconduire de la sorte. Et je dis donc que certains grands responsables de gauche n'aiment pas non plus leurs amis. La preuve. On parle beaucoup de réformes, François Xavier l'a évoqué tout à l'heure. Alors moi, je vais vous faire une confidence, je vais citer Jean Giraudoux, en vous annonçant, chers amis, que la guerre de Troie n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, là, Jean Giraudoux, 1935. Tout ça pour vous dire que la réforme fiscale n'aura pas lieu, dont on nous rebat les oreilles tous les jours. C'était un bon argument pour focaliser l'attention des Françaises et des Français sur d'autres sujets que les réalités. La réforme fiscale n'aura pas lieu. Et on va nous en parler encore, paraît-il, jusqu'en 2017. C'est-à-dire que, j'ai compris, en 2017, celui qui sera en responsabilité éventuellement devra se dépatouiller avec ce sujet. Bien, je vais plutôt vous parler maintenant de ce qui nous intéresse, ce qui nous réunit, c'est la ville de Tarbes. Souvenez-vous, François-Xavier l'a rappelé, 2001, une victoire avec 26 voix d'avance. Et le choix qui était proposé aux Tarbes et aux Tarbes à l'époque, en 2001, c'était on continue, comme depuis 24 ans, avec une équipe communiste, socialiste, à la tête de la mairie de Tarbes, on change. On parlait de changement déjà à l'époque. Est-ce que le véritable changement n'a pas eu lieu depuis 2001 ici? En 2008, une large majorité m'a renouvelé sa confiance et face quand même à un adversaire qui n'était pas n'importe qui. Je ne veux pas dire qu'en 2014, nos adversaires seront n'importe qui, mais dire que c'était quand même l'ancien ministre dont on a parlé tout à l'heure. Et je voudrais dire que cette confiance qui nous a été renouvelée, largement, elle nous a beaucoup touchés et nous a donné toute l'énergie nécessaire pour poursuivre la rénovation de la ville comme nous l'avons fait depuis 2001 à partir de 2008. Et si cette confiance nous a été ainsi renouvelée, je sais que nous vous le devons aussi. À vous, à toutes et à tous. Et je voudrais vous en remercier. Parce que, vous savez, quand on nous confie des responsabilités comme celles qu'on nous a confiées, quand on est accompagné par des hommes et des femmes comme vous, qui nous avez soutenus, toujours fait confiance, on a un souci majeur, c'est de ne pas les décevoir, d'être digne de leur confiance. C'est aussi un sentiment qui nous a donné toute l'énergie nécessaire. Je me suis donné en 2008 une obligation de résultat, justement pour ne pas recevoir. Et je voudrais, en vertu de cette obligation de résultat, vous rendre compte aujourd'hui du travail accompli. Nous avions présenté en 2008 un projet au Tarbes au Tarbes. 85% de ce projet a été intégralement réalisé. Si vous l'avez encore dans vos archives, consultez-le et vous pourrez dire que oui, ça c'était, etc. Puis, 15% n'ont pas été réalisés, mais par contre, d'autres projets qui n'étaient pas prévus ont été réalisés à la place. Je veux penser à des opportunités qui nous sont tombées un peu dessus, comme Arsenal, j'en parlerai tout à l'heure, nous a obligés à faire d'autres choix. Tout cela, vous le savez, nous l'avons réalisé sans ménager notre peine, et je voudrais remercier tous les élus qui m'entourent, tous les adjoints, et adjointes, bien évidemment, pour le travail remarquable qu'ils ont accompli à mes côtés. Je ne vais pas les citer, mais je pense à tous qui ont fait un travail formidable, ceux qui sont là, et certains qui malheureusement ne peuvent être là. Je les remercie du fond du cœur. Quant à toi, François-Xavier, mon ancien et futur premier adjoint, j'espère, je te remercie particulièrement parce que tu avais une tâche difficile, c'était celle de s'occuper des finances, et tu l'as fait remarquablement. J'ai pris ta succession en essayant d'être digne de toi. Voilà. Alors, il y aura bientôt 13 ans. Souvenez-vous, 26 mois. Il faut que je vous raconte quand même cette soirée du 16 mars 2001. Il faut que je vous la raconte. Comme je la raconte à l'occasion des réunions que j'organise dans les familles. Chez l'habitant depuis le mois de mars de cette année, et j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux, il y en a beaucoup qui sont ici, qui m'ont accueilli chez eux, invitant parents, voisins, amis, avec parfois 20 personnes, et avec un qui a battu les records, Maurice Paquet, 48 personnes chez lui. Je lui dis, Maurice, je te félicite, non pas d'avoir réussi à réunir 48 personnes, mais de posséder chez toi 48 sièges. Moi, je n'avais pas encore. Souvenez-vous donc de ce 16 mars 2001. Nous étions, et certains parmi vous étaient là, nous étions nous 300 dans la salle de réunion de l'autoport, derrière la chambre de commerce. On avait installé un grand tableau avec tous les bureaux de vote. Et puis les résultats commencent à arriver. Ceux qui tenaient les bureaux commencent à les apporter. Et on commence à inscrire bureau par bureau. Et on voit les visages malheureusement s'assombrir. On voit quelques-unes des femmes qui étaient parmi nous commencer déjà à pleurer parce que l'échec était annoncé par les premiers résultats. Vous voyez bien. Nous sommes donc montés avec quelques-uns, François-Xavier, Gilles, dans un bureau au-dessus de cette grande salle de réunion pour commencer à rédiger quelques réflexions que je pourrais présenter à la presse, que je tiens à remercier pour sa présence, pour commenter notre échec, quand tout à coup, une clameur extraordinaire monte de la salle du bas. On est descendu à toute vitesse. Les résultats du dernier bureau de vote venaient d'arriver alors qu'on était battu. Et les résultats du dernier bureau ont basculé et ont nous permis de basculer, nous ont donné 26 voix d'avance. C'est un moment fort qu'on n'oubliera jamais. Et est-ce que ces 26 voix n'ont pas pesé lourd dans le devenir de notre fille? Il faut méditer cela aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'impasse de l'élection de mars prochain en disant « ça va être facile ». Ils vont être le premier tour. Non, non, il faut se mobiliser. J'en reparlerai tout à l'heure. Eh bien, vous le savez, le regard, le jugement des Tarbais, François-Xavier l'a dit tout à l'heure, a complètement changé. sur nous d'abord, sur notre équipe. On nous affublait toutes les misères du monde. Nous avions tous les défauts du monde. Et les Tarabès et Tarabé ont pu voir que nous étions ouverts, tolérants, et que l'engagement qui était le nôtre était un engagement de cœur au service des Tarabès et Tarabé de notre ville. Ils l'ont compris, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en le démontrant en 2008. Alors, pourquoi nous sommes-nous présentés en 2001 en disant il faut changer la ville, il faut changer l'image de la ville? Quelle était la situation de la ville de Tarbes à la fin des années 2000? Il faut se souvenir de tout cela. Tarbes était une ville sur le déclin. Je ne vise personne, c'est comme ça, déclin économique. On avait perdu au cours des années précédentes 9 000 emplois, 9 000 habitants, 6 000 emplois sur l'agglomération Tarbes, avec des noms d'entreprises qui résonnent comme des noms de bataille perdue. Serraver, 2000, Youxpool, 860, Arsenal, ATS, GIAT Industrie, 3 400, même Alstom, 1 000 emplois. Voilà la situation qui décède de Tarbes. Et dans l'inconscient des Tarbaises et des Tarbais, il y avait comme une certaine résignation. Nous étions une ville qui était en train de perdre des habitants, des emplois, etc. J'entends que certains proclament aujourd'hui que la population diminue, on aura l'occasion de reparler de cela pendant la campagne. Mais la réalité du début des années 2000, c'était celle-là. Une certaine résignation. Une ville triste, grise. Je me souviens, on disait, quand on évoquait le patrimoine architectural de la ville de Tarbes, la Roulesse, c'est bien, on disait, où sont les éléments remarquables de ce patrimoine architectural? On ne le voyait pas. En réalité, il y en a beaucoup. Et c'est ainsi que nous avons voulu nous engager tout de suite vers des investissements emblématiques qui allaient changer cette image-là. Et d'abord, aux yeux des Tarbais eux-mêmes. Pourquoi changer l'image de la ville? Pour que les Tarbais se sentent bien dans leur ville, se sentent bien dans leur vie. Le premier investissement emblématique que nous avons réalisé, ça a été de refaire la rue Maréchal Foch. Souvenez-vous de la rue Maréchal Foch, comment elle était à l'époque? Des trottoirs étroits, avec de grandes jardinières, etc. Eh bien, nous, on a voulu donner l'espace aux Tarbais et aux Tarbais, avec de larges trottoirs, au ras de la chaussée, avec des luminaires nouveaux, avec des supports de décoration florale, avec la disparition des lignes électriques qui traversaient tout le long de la chaussée, etc. Et puis surtout en mettant des palmiers. Quand on a dit qu'on allait mettre des palmiers, et on s'est fait trucider. Il est faux celui-là, il croit à Nice. Il fallait oser. Les palmiers, on les a mis, la rue Maréchal Foch a été refaite. Dans le même temps, nous avons engagé une opération façade, et chaque fois que nous avons réalisé des rénovations de voirie, pénétrante sur la ville, qu'il s'agisse de la rue Alsace-Lorraine, de la rue du Régiment de Bigorre, de la rue Victor Hugo, etc. Chaque fois, nous avons, de la rue de Gonesse, nous avons engagé en même temps que la rénovation, que l'investissement de la ville, ce qu'on appelle l'opération façade, demandant aux propriétaires de nous accompagner dans la rénovation, en leur disant, vous refaites vos façades, on vous donne 40% de subvention. Le résultat aujourd'hui, chers amis, c'est 407 façades qui ont été refaites sur la ville de Tarbes. Je me souviens, au conseil municipal, M. Goetz disait, le maire, il s'amuse à colorier la ville, c'est tout ce qu'il fait. Ce n'était pas du coloriage, c'était un changement profond dans la perception même que nous pouvions avoir de notre cité. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que la ville a changé. Elle est accueillante, elle est ouverte, elle est animée, elle est gaie, et il y a de la couleur. Et on a l'impression, j'ai lu dans un hebdomadaire une enquête qui a été faite, et j'ai lu avec intérêt les commentaires des jeunes qui ont été interrogés. Les jeunes qui ont été interrogés. Et quand j'ai lu ces commentaires, des jeunes de 17, 18 ans, on dit, qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Et ils ont dit, cette vie, ça bouge. Et puis, c'est chouette, il y a des palmiers, on se croirait sur la Côte d'Azur. Disait dans l'hebdomadaire auquel je fais allusion cette étude et ces commentaires de tous ces jeunes. On peut légitimement avoir une petite satisfaction, ce qui prouve bien que le sentiment qui était le nôtre est bien perçu aujourd'hui, y compris par les jeunes, ce qui n'est pas facile. Nous avons bien évidemment réalisé d'autres investissements emblématiques au-delà de la rue Maréchal Foch que je viens d'évoquer. J'ai cité donc les autres rues, la halle Marcadieu. Là aussi, vous ne vous souvenez pas que la halle Marcadieu n'était pas aux normes européennes et que, pour accueillir le marché, et que le sol était en terre. Il était en terre battue. La halle Marcadieu a été rénovée assez vite. Et puis nous poursuivons la rénovation de la place Marcadieu. C'est un chantier très important qu'on a étalé sur plusieurs années. Pourquoi ? Mais on a voulu aussi donner l'exemple, faire disparaître quelques friches. La première des friches que nous avons fait disparaître en centre-ville, ça a été le cinéma Le Paris, à côté du commissariat. Le cinéma Le Paris était fermé depuis plus de 10 ans. Nous avons décidé de l'acheter pour y construire une résidence, un lieu de résidence d'artistes, réservé aux associations dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse. Et nous mettons donc ce lieu à la disposition de ces associations en leur disant « Vous prenez possession de lui, en état de fonctionnement avec tout le personnel, pendant 3 semaines, 1 mois, mais vous y organisez exposition, conférences, répétitions ouvertes au public gratuit, et un spectacle que vous donnez. » Ça fait 10 ans que le Paris existe, que des compagnies maintenant de Toulouse, de Bordeaux et même de Paris nous demandent de venir en résidence ici. Cela fait 10 ans, nous l'avons fêté il y a quelques semaines. J'ai été heureux de voir que la salle était pleine pour le dernier spectacle, c'était la barre. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir, c'est formidable. Donc nous pouvons légitimement avoir quelques satisfactions. Nous avons une offre culturelle d'une qualité exceptionnelle sur notre agglomération, avec la scène nationale Le Parvis, avec le théâtre des nouveautés que nous avons rénové également. Mais il était bon aussi de permettre aux troupes de notre agglomération, de notre département, de pouvoir s'exprimer en un lieu digne de leur talent et du public auquel ils venaient présenter leur spectacle. C'était important. Deuxième friche que nous avons fait disparaître, c'est le cinéma à l'Erex. Vous verrez que dans mon propos, les cinémas ont une place importante. Le cinéma Le Rex, c'était une friche depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Et je reçois un jour, dans mon bureau, c'était en 2002-2003, des investisseurs qui viennent me dire, voilà, on voudrait construire un hôtel 3 étoiles en centre-ville. Bonne idée. Bonne idée. Et essayer de le faire là, en remplaçant du Rex. C'était compliqué parce que l'acquisition, vu l'emplacement de ce lieu, était assez élevée. C'est pour ça qu'aucun projet n'avait pu s'y réaliser. Ils reviennent me voir quelques semaines plus tard, disant « Mais voilà, ça y est, on a un accord avec le propriétaire. Nous allons donc construire un hôtel 3 étoiles à l'emplacement du Rex. » Très heureux, chouette, encore une friche qui va disparaître. Puis les mois passent. Et 6 mois après, ils reviennent me voir en disant « Écoutez, on voit que ça bouge à Tarbes, et on a envie finalement de faire un hôtel qui sera emblématique de la ville de Tarbes. On va faire une 4 étoiles. » Et là, ils ouvrent les plans qu'ils viennent me présenter, et je vois une architecture tout en vert, les couleurs et tout. « Oh !» Je dis « Ah non !»« Ah non, je vais me faire trucider si vous faites ça !» Moi déjà, suicidé pour les palmiers, si je fais ça, un immeuble tout en vert ici, non, on dirait que je me crois à New York. Et je leur dis, non, écoutez, réfléchissez à la question. Je demande l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui me dit non, effectivement, il vaut mieux qu'il y ait une harmonie architecturale dans le cours de l'État et faire autre chose. Et sur ces entrefaites, nous sommes invités par le maire d'Altenkirchen. Il nous invite à Berlin, à visiter le Bundestag et la maison de Rhénanie-Palatinat, comme si moi je l'invitais au conseil régional de Midi-Pyrénées si j'avais la majorité là-bas. Nous découvrons Berlin, qui est une ville qui a été presque entièrement reconstruite, 80%. Et on voit là une ville absolument magnifique, de grandes avenues, superbes pistes cyclables, de grands trottoirs, des arbres, des fleurs. Et le soir, de grands immeubles réalisés et construits par les plus grands architectes du monde. De grands immeubles tout en verre et des couleurs formidables. Et je vois ça, je dis, mais c'est sensationnel ça. Et je reviens à Tarbes. J'appelle l'architecte des bâtiments de France, je lui dis, il faut qu'on leur donne l'autorisation de faire ça comme ils le veulent. Et je lui raconte ce que j'ai dit à Berlin. Finalement, j'ai réussi à convaincre, ça s'est fait. Et je vais vous dire comment le Rex est devenu un hôtel emblématique de la ville de Tarbes. Il y a un mois environ, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit, il faut que je te voie, j'ai quelque chose à te dire qui te fera plaisir. Alors je lui dis, écoute, si ça doit me faire plaisir, viens tout de suite. Il vient et il me dit, voilà, nous étions avec ma femme, nous avons fait un séjour de 3 semaines aux États-Unis, on a fait une trajectoire traditionnelle hein, que je n'ai pas faite moi, mais je ne désespère pas. Et nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans. Et là-bas, un soir, nous avons écouté du jazz avec de grands musiciens de jazz. Et à la fin du spectacle, on est allé discuter avec eux, on a sympathisé. Et à un moment donné, le musicien principal me dit, vous êtes où? Et lui, il dit, bah, je ne peux pas dire, je suis de Tarbes. Il dit, à côté de Toulouse. Alors le musicien dit, ah yes, Toulouse, Marciac, Lourdes, le Rex à Tarbes. Je vous donne la parole. Est-ce que ce n'est pas la reconnaissance du caractère emblématique de cet hôtel qui accueille, vous savez, dans le festival Marciac tous les plus grands artistes du monde qui viennent à Marciac? C'est une satisfaction que j'ai plaisir à vous livrer. Nous avons poursuivi, vous le savez, des investissements importants. J'ai parlé de l'opération façade, 407 façades, je n'ai pas parlé de l'opération d'amélioration programmée d'habitat. C'est une opération que nous avons engagée depuis 2001 avec un partenaire et qui a pour vocation d'aider les propriétaires privés à rénover des appartements insalubres en centre-ville, qui ont besoin d'être rénovés sérieusement. Nous avons réussi, depuis 2001, à rénover pas loin de 400 appartements insalubres en centre-ville, ce qui a représenté un chiffre d'affaires considérable pour les entreprises de notre département. Je ne donne pas le chiffre parce que je tiens à ce qu'on le vérifie, il me paraît tellement énorme. Mais c'est plusieurs millions d'euros. Ensuite, je suis obligé de vous parler d'une autre opération d'envergure que nous avons engagée immédiatement, c'est l'opération de rénovation urbaine. Nous avons été la deuxième ville de France à signer avec Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque ministre de la ville, l'opération de rénovation urbaine des quartiers nord de la ville de Tarbes. Ont été réalisés sur le quartier nord de la ville de Tarbes plus de 120 millions d'euros d'investissement, avec 28 millions d'euros de subventions d'État pour cette opération. Et les investissements qui ont été réalisés par la CENI, sur les anciens abattoirs, par l'OPAC, par la ville de Tarbes, ce qui est voirie, rénovation du stade, des gymnases, le parc des Bois Blancs, etc. Les rues, la libération de Garigliano, etc. Et on va continuer. Rue de la Cerdagne et du Languedoc, début 2014. Cette opération de rénovation urbaine a permis de changer considérablement l'image du quartier nord, de l'Aubagne. Je vous engage, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller souvent, traverser la rue Saint-Exupéry. Vous verrez comme elle est belle et comme le quartier a changé. Et le comportement des gens a changé également. Parce que quand on respecte les habitants en leur donnant des conditions de vie dignes de ce nom et de notre temps, eh bien, le respect, en principe, il nous le renvoie. Nous avons... Vous savez, je peux vous parler de la ville de Tarbes jusqu'à demain matin, si vous voulez. Mais je ne voudrais pas abuser. Je ne voudrais pas trop abuser. Nous avons, dans le même temps, vous avez compris, avec ces investissements qu'il y avait pour objectif d'embellir la ville, je parlerai à la fin quelques-uns, mais nous avons, dans le même temps, et également, créé de nouveaux services pour le bien-être des Tarbaises et Tarbais. Le service sécurité, il y avait 3 agents de la police municipale en 2001, aujourd'hui, tous effectifs confondus, ils sont 34. On a installé des caméras de vidéoprotection, là aussi, on a été montré du doigt quand on a commencé à installer des caméras. Je me souviens, M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, on disait très bien, je veux faire le Sarkozy local. Aujourd'hui, je vous donne ma parole, dans tous les quartiers, nous faisons des conseils de quartier. On me demande des caméras pour assurer la sécurité des espaces dans les quartiers. Nous avons créé un service pour faire disparaître les tags dans la ville. Là aussi, vous ne vous souvenez pas que à la fin des années de 2000, la ville était couverte de tags. Je me souviens de la rue de Bourbon, il y avait des tags partout. Aujourd'hui, circuler dans la ville, il n'y a pratiquement pas de tags. Dès que même, notre équipe intervient sous la diligente incitation de Michel Fourget et de nos services techniques. L'équipe Antitac fait un travail formidable. Nous avons créé une autre équipe, les travaux de proximité. Qu'est-ce que c'est les travaux de proximité? Eh bien, c'est une équipe de voltigeurs qui participent avec nous à tous les conseils de quartier, qui notent toutes les demandes qui nous sont présentées. Et il y a ici beaucoup de personnes qui participent au conseil de quartier. Si je ne dis pas la vérité, je vous autorise à intervenir. Qui notent ce qu'il y a à faire, reboucher un trou, changer le luminaire, etc. Et cette équipe de proximité intervient quasiment immédiatement, quasiment dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, selon les cas. Plus de 1000 interventions par an. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est formidable quand même. Bien évidemment, nos compatriotes ont le sentiment d'être entendus. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui me dit « Je ne suis pas content après la mairie. » Et pourquoi ? Il dit « Parce que 3 semaines que je téléphone à un service parce qu'il y a un problème dans mon trottoir et personne ne vient. » Je dis « Vous avez appelé qui ?»« Ben, au service en chef. » Ce n'est pas au service en chef. Il y a des adjoints de quartier. Il y a des conseillers de quartier. Il y a un maire. Vous adressez à nous. Quel est le problème? Il me le donne. Le lendemain, c'est fait. Il m'a téléphoné. Incroyable. Je dis, ouais, il suffit de s'adresser au bon interlocuteur. Ça, c'est très important. Sur le plan social, pareil que nous, on n'a pas de cœur. Qui peut dire, des découvreurs, que sur le plan social, nous avons été inactifs depuis 2001. On a construit 2 crèches. On a rénové toutes les autres. On a augmenté les budgets des aides sociales pour les personnes en difficulté. On a créé le microcrédit. On a créé une épicerie sociale. C'est nous qui avons créé une épicerie sociale, c'est pas les autres. C'est quoi une épicerie sociale? C'est une épicerie où les personnes en difficulté vont faire leurs achats. Un produit qui vaut 10 ou 5, ils le payent 1. Et combien de lettres avons-nous reçues nous disant « Merci, grâce à vous, je ne vais plus au restaurant du cœur ». Oui, c'est important. Et puis, je pourrais décliner tout cela dans tous les autres domaines. Le sport, la culture, l'éducation, l'urbanisme, l'environnement. On fait, avec l'éducation et le développement durable, quelque chose de formidable. Plus de 3000 élèves de notre ville ont participé au stage de 10 jours sur l'éducation et le développement durable pour 10 euros. Nourris, logés, à Payolle. Avec une véritable éducation. Quand on éduque les enfants, maintenant, c'est l'inverse. On éduque aussi les parents. Avant, c'était l'inverse. C'est les parents qui éduquaient les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui éduquent les parents. Eh oui, c'est pour ça que quand on investit sur les enfants dans le respect de l'environnement, eh bien, les parents suivent également les bons conseils. Nous avons augmenté les subventions. J'ai lu tout à l'heure que depuis 2001, on a augmenté dans le domaine du sport les subventions de 131%. Au total, on a augmenté de près de 50% pour toutes les associations qui, bien évidemment, œuvrent dans l'intérêt général et qui ont besoin de notre soutien. Les animations. Est-ce qu'on peut dire que Tarbes n'est pas une ville animée? Quand on voit ce que nous faisons avec le comité des fêtes, avec l'office de tourisme, Michel Garnier, merci pour tout ce que tu fais avec ton équipe, formidable équipe. Les fêtes de Tarbes. Honnêtement, depuis quelques années, les fêtes de Tarbes ont sacré allure. Ça bouge. C'est la joie. C'est la convivialité. Les animations, les festivals. Equestria est devenu, depuis 2001 que nous l'avons installé au Hara, a pris une ampleur considérable. C'est 45 000 personnes qui viennent dans la semaine participer à Equestria, dont la moitié qui viennent d'ailleurs que notre département. Le festival des polyphonies, le festival de tango. Le festival de tango qui a pris lui aussi une importance formidable. Nous avons accueilli au mois d'août dernier 15 000 personnes sur 9 jours. Et là aussi, la reconnaissance du gouvernement argentin. Elle s'est manifestée l'année dernière par le don à la ville de Tarbes d'une sculpture représentant un bandoléon. Un jour, on m'écrit, on me dit, est-ce que vous voulez, le gouvernement argentin va vous offrir un bandoléon. Enfin, je lui dis, non, je ne veux pas un bandoléon. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas mettre une sculpture qui représente un bandoléon. Notre perception des choses. Et puis, on m'envoie la photo et la dimension. Et là, je vois en effet une œuvre, une pleine sculpture, une œuvre d'un artiste. Ce bandoléon a été réalisé en 7 exemplaires et il se trouve dans les plus grandes villes du monde. Et le gouvernement argentin nous en offre une ici. Elle est au parc Chastelin, à côté de la Villa Foule que nous avons rénovée et dans laquelle nous avons accueilli le parc national des Pyrénées. Et cette année, la manifestation de reconnaissance du gouvernement argentin, ça a été un cadeau qui m'est fait par le représentant du gouvernement argentin. Il m'offre un livre magnifique dans un boîtier. Je sors le livre du boîtier. Superbe livre. Et qu'est-ce que je vois sur le livre? Tarbes en tango. Je feuillette le livre, des photos magnifiques de la ville de Tarbes, avec les danseurs partout, des photos de notre ville, du Radamassé et tout. Et c'est un livre qui a été réalisé en Argentine par des Argentins et ils nous l'offrent. C'est la reconnaissance de ce que nous faisons sur le festival devenu le premier d'Europe. Les polyphonies. Est-ce que il n'est pas normal dans notre région où le chant pyrénéen, basque, représente quelque chose d'extraordinaire? Est-ce qu'il n'est pas normal que nous ayons donné ces lettres de noblesse à la polyphonie à travers ce festival de polyphonie? Nous avons la chance d'avoir un groupe de polyphonie extraordinaire qui s'appelle Vox Bigari, qui d'ailleurs va chanter, je crois, demain soir, ou samedi suivant, à l'église Saint-Jean. Je vous conseille d'aller les écouter. C'est un groupe qui rivalise avec les plus grands groupes polyphoniques du monde, d'Europe, des Corses, des pays de l'Est, etc. Formidable. Le festival de musique militaire avec Michel Forger, que nous avons organisé depuis 2002, qui est un grand événement, qui nous permet de rendre hommage à nos soldats et à notre fanfare, à l'USAR. Ce festival de musique militaire a remporté un grand succès. La dernière édition, 15 000 personnes au stade Maurice Trévu. Je vous dis tout de suite que pour 2014, compte tenu du fait qu'il y a des élections et que c'est un engagement important, il se peut qu'on réduise le format, mais c'est un festival auquel nous sommes très attachés. Et je pourrais poursuivre, bien évidemment, encore longuement sur toutes les réalisations, Cléa, Carmel, etc. Nous avons investi, sans compter les 120 millions qui ont été investis à Lombardère, nous avons investi 202 millions d'euros dans la ville de Tarbes depuis 2001, jusqu'à fin 2013. Et nous avons fait cela en désendettant la ville de Tarbes. Quand nous avons hérité de la ville de Tarbes en 2001, il y avait une dette qui était de 92 millions d'euros. Nous avons investi 200 millions. On a augmenté les moyens des associations. On a créé de nouveaux services pour donner de meilleurs services à nos compatriotes tarbes. Et nous avons diminué la dette qui s'élèvera à la fin de l'année 2013 à 67 millions. C'est encore beaucoup trop. Mais regardez ce qui a été fait. Et malgré cela, on a réussi à désendetter de 25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et on a fait cela, mes chers amis, sans matraquer le contribuable, sans vous matraquer. Ouais. Sans vous matraquer, puisque le taux moyen de la fiscalité municipale de 2001 à 2013 est de 1,34%. Alors que ce qui représente sur la durée de 2001 à 2013, 16% d'augmentation du taux de la commune. Alors que l'inflation sur la même période a augmenté de 25%. C'est donc 50% de moins que l'inflation. Pour que vous puissiez avoir une idée, sur la même période, 89-2001, puis j'ai comparé, mais je fais ça sans rien penser, pour que certains, au conseil municipal, essaient de nous donner des leçons quand on dit qu'on n'a pas augmenté les impôts, c'est 0% en 2013 et qu'on va faire 0% en 2014. Et que certains viennent nous dire, Monsieur Guette, on va le citer, c'est pas suffisant, vous devriez baisser les impôts, etc. Je suis obligé de rappeler que de 89 à 2001, la fiscalité communale a augmenté en moyenne annuelle de 6,81%, soit sur la durée de la période 41% d'augmentation, alors que l'inflation avait là aussi augmenté de 25%. C'est tout, comparé. Puis vous pouvez aussi comparer ce qui a été investi. Je voudrais vous dire quelques mots quand même sur trois grandes réalisations que je ne peux pas commenter. Le musée des Hussards. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à aller le voir, mais je vous engage à aller le visiter. C'est une merveille. C'est une collection unique au monde. 15 000 pièces uniques au monde, avec des costumes de toutes les armées. L'époque de Napoléon, toutes les armées européennes, et même nous avons des costumes de hussards, japonais, américains, etc. C'est formidable. Ce musée, il était, on en parlait depuis 25 ans. Eh bien, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, et dans le même temps, nous avons rénové le musée Massé. Une rénovation magnifique, qui a coûté cher. Mais nous avons investi pour les 30 prochaines années. Tant qu'on y était, on a rénové aussi le cœur du jardin Massé, dont la toiture était sur le point de s'effondrer. Le quartier d'Arsenal, je ne peux pas ne pas en parler. Là aussi, je suis obligé de vous conter l'histoire. C'était en 2007, début 2007. Réunion à la préfecture, organisée par le préfet de l'époque, en présence des représentants de la région du département du Grand Tarbes et de la mairie de Tarbes. Et des responsables de Jardin du Cid. Et là, le responsable de Jardin du Cid nous dit, voilà, monsieur le préfet, merci d'avoir regardé les réunions, vous voulez vous dire, messieurs, que nous avons décidé de vendre le site de Tarbes, comme nous le faisons en toute partie sur les autres sites. On vous livre l'information. Lève la main, constatant que c'était quand même un investissement très lourd. Et je dis, tous mes collègues qui étaient là, j'ai dit, je vous propose que nous puissions créer ensemble un syndicat mixte et qu'on l'achète ensemble. On verra ce qu'on y fera. Là, le représentant de la région lève la main, Pierre Fort. Et il dit, la région est en train de créer un office foncier régional. Ce sera de sa compétence. Il avait raison. Claude Miqueux, pour le département, lève la main et dit, même réponse que M. Fort. Ce sera de la compétence de l'Office foncier régional que d'acquérir le site de l'Arsenal. Le président du Grand Tard à l'époque dit c'est pas dans la compétence. Claque, fermé. Comme une gifle. C'est pas dans la compétence. Et moi, je me retrouve donc tout seul. Et je dis au représentant de Jet Industrie, monsieur, je vous donne rendez-vous tel jour la semaine prochaine. Et pendant plusieurs semaines, nous avons négocié l'acquisition de ce site. Et je vous pose la question. Ce site, 30 hectares, 100 000 mètres carrés bâtiment. Est-ce que nous avions le droit de laisser ce site devenir n'importe quoi entre les mains de n'importe qui? Est-ce que nous n'avions pas un devoir de reconnaissance et de respect à l'égard de ce que ce site a représenté pour notre ville? Les milliers de Tarbais et Tarbais qui ont travaillé depuis la fin du 19e siècle à l'arsenal de Tarbes. Dans une des réunions que nous avons faites, que nous faisons à domicile, il y avait à côté de moi un monsieur d'un certain âge. Quand j'ai dit ça, il avait les larmes aux yeux. Et il prend la parole et me dit, je vous remercie parce que vous savez, mon grand-père a travaillé à l'arsenal. Mon père a travaillé à l'arsenal. J'ai travaillé à l'arsenal. Et mon fils a travaillé à l'arsenal et lui, il s'est fait jeter. Et je dis donc que nous avions le devoir de nous intéresser à ce site. Et je ne savais pas ce qu'on allait faire. Je ne savais pas. Nous sommes aujourd'hui fin 2013. Je tiens à vous dire que l'Office foncier régional n'existe toujours pas. Il n'a pas été créé. Hey. Je ne raconte pas de blagues. C'est la stricte vérité. Bien sûr, on a négocié pendant de longues semaines avec Jet Industrie et nous avons acheté ce site. Je n'ai rien à vous cacher. Nous l'avons acheté, je le rappelle, 30 hectares, 100 000 mètres carrés bâtiment, 3 800 000 euros. Et sans savoir ce que nous allions y faire. On a eu en même temps une enquête publique pour voir ce que le site allait devenir. Et les conclusions de cette enquêtrice sympathique étaient les suivantes. Considérant qu'il y a eu de la pollution sur ce site, interdiction du construire de logements. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf logement, crèche, école. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a dit, bien, on va donner l'exemple à la ville de Tarbes. On va commencer par investir les deux premiers bâtiments qui jouxtent l'avenue Alsace-Lorraine. Et dans le premier, nous y avons aménagé, après avoir rénové entièrement le bâtiment, les réserves du musée et les archives municipales, où il y a aussi des expositions remarquables. Je vous engage à aller visiter les archives municipales régulièrement. Monique Sarcier et son équipe font du très bon travail. Le bâtiment en face, pour faire plaisir à mon ami Eugène, qui ne savait pas où mettre les associations, alors que nous avions déjà créé une maison de l'association rue Latine, on a dit on va y faire une maison de l'association, ce grand bâtiment où il y a le clocheton. Et il y a aujourd'hui 45 associations qui sont heureuses de ce bâtiment. Mais après, nous avons déménagé la cuisine centrale, qui travaille maintenant dans de bonnes conditions et qui confectionne quand même 600 000 repas par an, c'est pas rien. Et puis après, on y fait quoi? On a dit, eh bien, on va réserver une partie du site à des entreprises, que des entreprises viennent s'installer là. Et j'ai proposé effectivement à des entreprises qui existaient, qui cherchaient des locaux pour s'agrandir, et puis à des entreprises qui sont venues s'installer sur notre agglomération, des bâtiments à des conditions formidables. C'était des bâtiments qui avaient été entièrement saccagés, tout arraché à l'intérieur, plus rien. Comme celui que la CCI a acheté et à l'intérieur duquel elle va réaliser un centre d'affaires. Et aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, je vais vous le dire parce que c'est important. Alors que certains disent que sur le site de l'arsenal, certaines plutôt au singulier, que sur le site de l'arsenal, j'accueille mes amis, je fais ça pour accueillir mes amis. Oui, j'ai des amis qui ont investi sur le site, je suis bien content, qui ont aussi investi dans la ville. Il y a sur le site aujourd'hui 46 entreprises qui sont installées sur le site d'Arsenal. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui travaillent sur ce site aujourd'hui? Il y en a 677. Oui, 677. Dont 285 correspondent à des emplois créés. Ce n'est pas rien. Et puis ensuite, eh bien, une chance inouïe. Un jour, je reçois dans mon bureau ici le directeur, le patron du cinéma CGR. Il vient me voir, il me dit, voilà, monsieur le maire, on vient vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ah bon? Oui, nous allons déménager le cinéma de la rue Henri-Chatfranche. Il y a des investissements importants à faire pour les rénover, ils ont besoin d'être rénovés. Considérant que nous sommes limités en termes de spectateurs par l'emplacement, il n'y a pas de parking, etc., ils prennent des PV quand ils viennent, eh bien, on a décidé de construire un complexe cinématographique à la sortie d'autoroute sur la zone d'Ibos, là-bas. C'est une bonne idée. Je leur dis, bah, écoutez, vous avez une minute, là? C'était deux. Vous avez une minute? Oui, venez avec moi. Je prends la voiture et je les amène sur le site de l'Arsenal, qui était en chantier. Et je leur dis, regardez les bâtiments. Vous choisissez celui que vous voulez. Et là, surprise. Est-ce que je peux revenir dans 15 jours avec mon architecte? Bien sûr. 15 jours après, ils reviennent avec l'architecte. Et l'architecte visite ces bâtiments et dit, mais ces bâtiments sont extraordinaires. Architecture industrielle fin 19e siècle. Magnifique. Et ils font le tour et il dit, patron de CGR, c'est celui-là qu'il faut que vous achetiez. Là où ils sont. Et là devant, on fait le parking. Et moi j'ai dit, je vous le vends, mais. Un, vous respectez l'architecture. Ne touchez pas l'architecture industrielle. Vous rénovez le bâtiment. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a un pont roulant. Vous le laissez. Si vous allez au cinéma, vous verrez qu'à l'entrée, il y a un pont roulant. Il y a une histoire industrielle ici, je tiens à ce qu'elle soit préservée. Bien évidemment, le fait que les cinémas s'installent là, ça crée un appel formidable sur le site. Formidable. Et c'est ainsi que beaucoup sont venus y investir, un nouvel hôtel, un centre médical, des restaurants, un bowling, en fait, toutes des animations formidables qui font que ben, c'est devenu un nouveau quartier dans la ville et qui est dynamique. Et j'ai vu que les jeunes, dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, l'apprécient beaucoup. Il y a des projets importants sur ce site avec. Le complexe multisport que nous portons avec le Grand Art. Dans ce complexe multisport, bâtiment de 11 000 mètres carrés, il y aura un mur d'escalade de 18 mètres, unique en Europe. Piste d'athlétisme. Est-ce que vous avez envie de revenir 13 ans en arrière? Voilà. Est-ce que vous voulez que Tarbes soit géré demain comme est gérée la France aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que le Parti communiste avec le faux nez du front de gauche reprenne le pouvoir à Tarbes? Parfait. Dans ce cas-là, mes amis, je vais vous dire maintenant ce que nous allons faire ensemble. Nous allons relever les défis qui se posent à nous, de la modernité, de la solidarité, de l'emploi. On a déjà fait beaucoup de choses, je l'ai dit. Nous allons restaurer les valeurs fondamentales, le respect du droit, que beaucoup oublient encore aujourd'hui. Le respect d'autrui, le respect de soi. Combien d'incivilités nous relate-t-on dans les conseils de quartier? C'est incroyable, incroyable. Et puis nous voulons que chacun retrouve confiance. Confiance en soi, confiance en son pays, confiance en sa ville. Et c'est un véritable contrat de confiance renforcé avec la population que je vais proposer au début de l'année 2014 à travers un projet. Ah bon, c'est pas grave. Et pour cela, nous voulons mobiliser toutes les énergies. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous encore une fois. J'ai besoin de vous, je ne suis pas le seul. Je voudrais saluer ici la présence de mon ami Jean-Marc Lacabane. Et je vais vous demander de l'applaudir quand je vais vous dire oui. Jean-Marc Lacabane qui va se présenter pour la quatrième fois, je crois. quatrième fois à Aurélien. C'est pas un apostolat. Je te félicite pour la venue. Parce que grâce à toi, nous aurons un peu de crédibilité. Dire qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être capable de présenter une liste et une élection. Je voudrais saluer également la présence de Patrick Butor, qui va se présenter à Sénéac. Là aussi, la tâche sera rude, mais l'enjeu de l'engagement de Jean-Marc, de Patrick et puis d'autres, l'enjeu est important. C'est que va devenir la communauté d'agglomération du Grand Arve avec un nouveau système électoral. Est-ce que le Grand Arve continuera à être géré comme il a été géré depuis 2008, c'est-à-dire dans la confiance partagée, dans l'ouverture, dans le respect des uns et des autres, et dans le partage des responsabilités, ou est-ce qu'il sera de nouveau gouverné comme il a été de 2001 à 2008, c'est-à-dire avec une opposition et une majorité qui s'arrangent tous les pouvoirs et tous les droits, et une opposition qui n'est même pas respectée. Eh bien, voilà le véritable enjeu. Que deviendra la communauté d'agglomération? C'est aussi important. Et donc, je vous dis, mes amis, partagez avec moi ce désir intact que j'ai de continuer à me battre pour ma vie. Cette volonté indéfectible que nous partageons de servir les Tarbaises et les Tarbais comme nous l'avons fait depuis 2001. Partagez avec moi un bilan qui va, vous l'avez compris, bien au-delà des promesses. Que représentent les promesses que nous ferons demain, en 2014, quand on a le bilan que vous connaissez et que j'ai commenté? Il est évident que ça apporte crédit aux promesses quand on a un bilan comme le nôtre et que les promesses de 2001 et de 2008 ont été tenues à près de 90%. Partagez avec moi aussi. Partagez avec moi les projets ambitieux et modernes que nous vous présenterons. Et puis partagez avec moi ce lien étroit, intime, que nous avons avec la ville de Tarbes, avec les Tarbaises et les Tarbais, que nous avons ensemble. Mon énergie, c'est vous d'abord, votre confiance, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi mon amour pour ma ville, Tarbes au cœur, je vous l'ai dit, Tarbes au cœur. Une ambition unique pour Tarbes, et rien ne m'arrêtera, ni personne. Mon engagement, c'est Tarbes d'abord. Certains me disent, vous êtes de quel parti? Et je dis, je suis du parti Tarbes, les Tarbaises et les Tarbais. La méthode, c'est Tarbes ensemble, et tous pour Tarbes, à défaut de Tarbes pour tous. Depuis 2001, je sais que vous en êtes conscient, un nouvel esprit a soufflé sur la ville de Tarbes. François-Xavier et Gilles l'ont dit tout à l'heure, un esprit d'équipe, un esprit de famille. Nous avons le sentiment réellement de faire partie de la même communauté, plus unie, plus solidaire, comme une famille, je le disais. Et je vous dis donc, les amis, à partir de maintenant, à partir de ce soir, tous sur le terrain avec moi, tous sur le terrain avec moi, Tarbes plus haut et plus loin, Tarbes plus fort. J'aime ma ville, vous le savez, j'aime les hommes et les femmes qui la font vivre. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Et moi, ma richesse, je la trouve en vous tous. Merci de m'avoir écouté sur le plan pratique maintenant, puisque je vous dis à partir de maintenant, au travail tous ensemble, nous avons, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous organisons des réunions depuis le mois de mars, mais là, nous allons entrer dans la phase un peu plus dynamique et grand public, si je puis dire, avec d'abord la distribution avant le 15 décembre d'une lettre Tarbaise au Tarbais. Puis la distribution mi-janvier du bilan de la mandature 2008-2013. Puis ensuite, nous présenterons la liste, début février, mi-février, une liste que je suis obligé de renouveler un peu, bien évidemment, faire entrer des hommes et des femmes nouveaux, rajeunis, si possible. Et je me dis que ça, il faudra plus que je dise trop longtemps, parce que quand je dirai qu'il faudra que je rajeunisse la liste, il faudra que j'en aille le premier. Mais n'empêche qu'il faudra bien qu'on fasse tomber l'âge moyen en intégrant quelques jeunes, parce que plus nous vieillissons, nous, plus il faudra que ceux qui vont nous rejoindre soient plus jeunes. Et bientôt, il faudra les prendre au berceau, peut-être. Ensuite, nous présenterons le projet fin février, qu'il faudra aller distribuer, on a besoin donc de main-d'œuvre, si je puis dire, et de conviction pour aller porter tout ça avec nous. Il y aura le jeudi 20 mars un grand meeting qui sera organisé au Parc d'exposition. Puis le 25 mars, distribution d'une lettre ou d'un document. Le 27 mars, un autre grand meeting. Et le dimanche 30 mars, au deuxième tour. En espérant qu'on pourra faire l'économie du deuxième meeting. Merci mes chers amis.